Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est extrêmement connu à Genève, Guy Mettant, dont j'ai dit dans une précédente émission qu'il avait le don d'ubiquité tant il a fait de choses. Mais aujourd'hui, Guy, je te reçois pour ton 10e livre, le dernier livre que tu as écrit sur l'Europe, Le continent perdu.
Bonjour Viviane, merci en tout cas de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici pour discuter de sujets qui sont importants.
Et te tiennent à cœur.
Absolument.
Alors cette Europe sur laquelle tout le monde se pose des questions, toi tu as donc écrit ce livre, il vient de sortir aux éditions des Sirtes, Plaidoyer pour une Europe démocratique et souveraine. Alors, on va parler d'un fameux dimanche noir. Tu as été un turbo européen, disais-tu.
Oui, alors effectivement, dans ce livre, je commence par raconter mon histoire européenne, si je puis dire, comme Suisse. Moi, je suis non Suisse, je suis non Valais, dans un canton quand même relativement confiné, entouré de montagnes. Et puis, effectivement, j'ai l'envie de respirer. Et au début, quand j'avais 18-20 ans, comme ça, j'ai été un pro-européen convaincu. J'ai sillonné l'Europe, j'ai travaillé en Angleterre, j'ai travaillé en Allemagne comme Hilfskrankenpfleger, comme aide-soignant à l'hôpital.
Oui, j'ai vu que tu avais même été jusqu'à la morgue accompagné
voilà,
des gens.
Oui, à l'hôpital de Cologne, Sainte-Marie de Cologne. Et là, effectivement, une partie de mon boulot consistait à transporter les morts à la morgue. Donc, ça m'a laissé des souvenirs. Et c'est comme ça que j'ai découvert, j'étais aide-jardinier aussi en Angleterre. Donc j'allais, vous savez, les Anglais sont complètement obsédés par leur gazon.
Oui, c'est tu comme... parles de la pince à épiler pour le gazon.
Exactement. Mais ça permettait d'entrer dans l'intimité des gens parce qu'ils nous offraient évidemment le thé selon la tradition anglaise. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'Europe aussi par mes voyages et que je me suis convaincu que ce continent offrait des possibilités inouïes, surtout que quelques années plus tard, il s'est ouvert suite à la disparition de l'Union soviétique et à l'ouverture des pays d'Europe de l'Est. Moi, j'étais souvent en Hongrie dans les années 80, encore à l'époque du communisme. J'étais en Pologne au moment de Solidarité, donc j'avais déjà, pour couvrir les événements comme jeune journaliste, et à l'époque, j'avais une amie hongroise dont le père était ministre de la Santé, le grand-père était un général qui a participé à la libération de Budapest contre les armées nazies, et l'arrière-grand-père était lui un des deux maréchaux autrichiens qui a combattu contre les Russes pendant la guerre de 14-18. Donc on voit toute cette stratification de l'histoire européenne, et ces expériences-là m'ont permis, un, de découvrir l'Europe, puis deux, de m'enthousiasmer pour le projet européen, jusqu'à ce fameux dimanche noir du 6 décembre 1992, quand la Suisse a décidé de rejeter l'espace économique. Et là, pour moi, ça a été effectivement une espèce de choc. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé, quelle était la signification, au fond, de ce refus.
Alors, quelles étaient les raisons qui t'ont conduit à un moment à changer d'avis? Parce que tu es revenu en quelque sorte de cet enthousiasme primitif.
Absolument. Ça a pris du temps, hein. Ça s'est pas fait tout d'un coup.
Non, ça s'est pas fait le lendemain.
C'est le produit d'une évolution. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce fameux 6 décembre 1992? C'est que ça a été une décision populaire. C'est le peuple, une majorité du peuple, alors on peut le regretter, moi sur le moment évidemment je l'ai beaucoup regretté, qui a décidé au fond de refuser. À partir de là, la question se posait, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut continuer, entre guillemets, nous les élites, hein, je me mets peut-être abusivement dans les élites,
non.
À penser, à vouloir disons, agir contre le peuple, ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas tenir compte, si on est un vrai démocrate, de l'avis du peuple et de sa majorité
du souverain, voilà, nous disons en Suisse.
Exactement. Et donc, à partir de là, je me suis dit que les élites, quoi qu'elles pensent, ne peuvent pas avoir raison contre le peuple si elles sont démocrates. Si elles ne sont pas démocrates, c'est une autre affaire. Première chose. Mais cet événement a aussi eu un effet déclencheur. D'une part, il a sabordé la notion d'espace économique, parce que cet espace est vidé de sa substance, et les pays qui auraient adhéré à cet espace, c'est-à-dire l'Autriche, la Suède, Malte, etc., qui voulaient l'Europe, mais sans être tout à fait membres, et qui auraient été d'accord de participer à cet espace, se sont dit, ben maintenant que la Suisse a au fond tiré un trait dessus, nous devons adhérer. Ils ont finalement préféré l'adhésion plutôt que l'espace économique. Puis les pays d'Europe de l'Est, nouvellement, disons, libérés de la tutelle communiste, eux aussi n'avaient plus cette possibilité d'entrer dans cet espace économique, un peu comme antichambre de l'Union, comme sas d'entrée provisoire, le temps de se préparer, le temps d'adopter les normes pour pouvoir adhérer, eh bien, ont tout de suite été admis. Ça a donc précipité un élargissement, à mon avis, trop rapide de l'Union européenne, et ça a déséquilibré le projet. C'est une des conséquences graves.
L'autre est encore plus grave, c'est la montée des populismes dont tu parles.
Absolument. La seconde, effectivement, conséquence de ce vote, c'est que ça a été un succès du parti dit populiste suisse, c'est-à-dire de l'UDC, de Christophe Blocher, et que ce succès démocratique, au fond, a dopé les autres mouvements populistes à travers l'Europe, parce que ces mouvements ont pris conscience qu'ils pouvaient obtenir, disons, raison auprès du peuple. Ils pouvaient gagner avec le soutien du peuple. Donc, ça a eu un effet bénéfique en ce sens que ça a convaincu ces partis de jouer le jeu démocratique. Ça a eu un effet plus problématique en ce sens que ça a effectivement aussi contribué à faire monter des partis qui sont très eurosceptiques, mais qui avaient aussi certaines bonnes raisons de l'être, comme on peut le voir tout à l'heure.
Alors, mon cher Guy, tu as choisi Caetano Veloso, Paloma Triste.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Sola con sus puertitas de par en par, juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Paloma piedras jamás. Paloma, ¿qué van a saber de amores?
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2, dans la bouteille à moitié pleine, avec Guy Mettant. Guy Mettant pour son livre Le continent perdu, et si l'Europe s'inspirait du modèle suisse. Alors ça, c'était ton idée de départ.
Oui, effectivement, parce que je fais une analyse effectivement de la situation de l'Europe aujourd'hui, des blocages et des impasses dans lesquelles elle se trouve, en tout cas l'Union européenne. Et effectivement, je pense que la Suisse pourrait servir de modèle, en sens pas d'un copier-coller, parce que je crois pas que le modèle suisse soit exactement transposable tel quel à l'Europe, mais en tout cas, ce que j'appelle la méthode suisse.
Parce que alors, qu'est-ce que c'est cette méthode suisse ?
Cette méthode suisse, au fond, consiste à ce que les élites, a consisté dans le fait que les élites les plus éclairées du pays au XIXe siècle, après 1815, après les guerres napoléoniennes, se sont dit que pour au fond développer la Suisse, pour la doter d'institutions qui tiennent la route, elles avaient intérêt à s'allier avec le peuple plutôt que de lutter contre le peuple. Et c'est ce qu'elles ont fait pour construire le fédéralisme suisse, pour construire la confédération moderne, c'est-à-dire le système fédéral moderne, et en même temps, justement, pour doter, libérer aussi la Suisse des ingérences extérieures, parce qu'il y avait sans arrêt des ingérences françaises. La grande puissance continentale, c'était la France. On est de subir l'expérience de Napoléon. Et puis, la nouvelle puissance continentale en 1815, c'était l'Autriche, l'Empire d'Autriche avec Metternich, qui sans arrêt s'ingéraient dans les affaires suisses, un peu comme maintenant les États-Unis, la Russie, la Turquie, les islamistes, enfin bref, tout le monde s'ingère
bientôt
dans les
la
affaires.
Chine.
Bientôt la Chine s'ingère au fond dans les affaires européennes, faute de souveraineté, faute d'institutions adéquates. Et donc les Suisses sont dit, enfin les élites, on va dire, de progrès de l'époque, les radicaux, le parti radical à l'époque s'est dit, il vaut mieux essayer de s'allier avec le peuple, c'est-à-dire lui donner, céder un peu de nos privilèges financiers et politiques, donner un peu de pouvoir économique et politique au peuple. C'est pour ça qu'on a instauré, créé la démocratie semi-directe, le droit d'initiative puis de référendum. Et donc partager un peu ce pouvoir, puis en même temps redistribuer un peu les richesses, parce que de cette manière, le peuple adhérera à notre projet. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été compliqué, ça a pris du temps, ça a duré 70 ans, 70 ans, comme on dit, on doit dire en France, donc de 1815 à 1891. Mais ça s'est fait de façon progressive, avec des reculs, des périodes de régression, etc. Mais si on regarde sur l'histoire, la progression a été constante. Et 200 ans après, on ne peut que s'en féliciter.
Alors, tu dis à un moment que le but de ce livre est double. Quels sont tes doubles buts en ayant écrit ce livre ?
Alors, d'une part, c'était de faire prendre conscience à l'Europe qu'elle se trouvait dans un moment historique extrêmement, disons, compliqué. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire des recherches historiques pour d'abord analyser les tentatives d'unification passées depuis Charlemagne.
Alors ça, c'est très extraordinaire quand on lit ton livre parce qu'on l'ignore complètement.
Oui, la tentative d'unification actuelle, celle de l'Union européenne, n'est que la septième du nombre. La première, c'était celle de Charlemagne, parce que c'est lui qui a recréé, à partir de rien, à partir pratiquement de zéro, un empire à l'ouest de l'Europe qui s'est fait couronner empereur en l'an 800 à Rome.
Tu dis quelque chose d'extraordinaire, c'est que les pays, enfin les régions de l'Empire carolingien, ce sont moins la Suisse, les régions de la première Europe à 6.
Exactement.
Ça,
si vous regardez la carte de l'Empire carolingien, elle comprenait l'Allemagne fédérale, donc la partie occidentale de l'Allemagne, une partie de la Bourgogne, la Belgique, le Benelux, la Suisse et le nord de l'Italie. Donc exactement, à l'exception de la Suisse, les 6 pays fondateurs de la communauté européenne. Pourquoi ? Parce que cette première création a à la fois échoué pour des raisons de gouvernance, mais elle a aussi laissé des souvenirs durables dans l'esprit des gens. Et 1000 ans après, ou 1100 ans après,
ouais.
1150 ans après pour être exact, on l'a recréé sous une autre forme. Donc Charlemagne a été la première tentative, il y en a eu plusieurs autres. Je parle des tentatives,
oui,
disons, faites par la force.
On va en reparler tout à l'heure dans une autre suite, mais ta deuxième partie, c'est le déficit démocratique.
Oui,
que tu
alors
veux
l'autre,
prouver, sur lequel tu veux t'étendre.
Effectivement, l'autre raison sont des raisons. Enfin, la deuxième raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que l'actuelle construction européenne qui est incarnée par l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, a pris des orientations dès le départ qui l'ont conduite, à mon avis, dans une impasse. Parce que ces orientations, qu'on peut comprendre à l'époque, après les destructions Deuxième Guerre mondiale, ces orientations étaient basées sur l'économie pure. On a voulu évacuer le politique. Jean Monnet, Maurice Schumann, les pères fondateurs, Spack, le Belge, les Italiens qui ont été les pères fondateurs de l'Europe, au fond, ont délibérément écarté le politique, écarté le parlementarisme, au fond, la démocratie, pour se dire on va faire un gouvernement d'experts, au fond, une administration d'experts.
Tu es même plus sévère que ça, parce que tu dis qu'au règne des intellectuels a succédé le règne des marchands du temple.
Ben oui, parce que les premières initiatives européennes ont été faites par des intellectuels, le comte Coudenhove-Kalergi, Aristide Briand, enfin, dans les années 20, même déjà au 19e siècle, mais dans l'entre-deux-guerres, dans les années 1920, les promoteurs de l'Europe, c'était d'abord des intellectuels. Et ce n'étaient pas des gens qui avaient une vision marchande de l'Europe. Au contraire, ils avaient une vision culturelle. Ils avaient été choqués par le désastre de la Première Guerre mondiale. Et au fond, ils voulaient rétablir cette civilisation européenne. Tandis qu'après 1945, on a pris une orientation qui était purement économique. Et cela volontairement. Et dont on paye les conséquences.
On va de nouveau écouter un peu de musique.
Aujourd'hui.
Mon cher Guy, tu as choisi Deep Purple, Smoke on the Water.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt,
La bouteille à moitié pleine.
We'll be right back.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2, dans la bouteille à moitié pleine, avec Guy Mettan pour son dernier livre qui vient de sortir aux éditions des Sirtes, Le continent perdu. Alors mon cher Guy, on va parler maintenant des tentatives européennes qui ont précédé, il y en a eu beaucoup finalement.
Oui, effectivement, moi j'en ai dénombré 6, il y a celle de Charlemagne dont on a parlé. Les suivantes étaient celles du Saint-Empire romain germanique, un siècle et demi après Charlemagne. En 962, le duc Otton de Saxe se fait couronner empereur lui aussi à Rome. Il suit l'exemple de Charlemagne et il est le fondateur du Saint-Empire romain germanique qui va regrouper lui aussi le nord de l'Italie, la Bourgogne, donc une partie de la France, la Belgique, la Hollande et l'Allemagne et la Suisse. Et cet empire va connaître un destin finalement assez extraordinaire puisqu'il va durer plus de 800 ans. C'est Napoléon qui va y mettre fin 840 ans plus tard en 1806. Donc cet empire supranational qui regroupait des tas de nationales, beaucoup de nationalités, au fond est exceptionnel par sa durabilité, ça veut dire qu'il avait des qualités, mais en même temps n'a pas cessé, après un siècle d'expansion, de perdre ces éléments. Il y a eu des exits successifs, dont la Suisse, qui au fond lui ont fait perdre ses territoires et il a fini complètement recroquevillé.
Et pourquoi au fond, pourquoi est-ce que la Suisse est partie de cet empire?
Ben, pour des raisons que je résume, pour des problèmes de gouvernance justement. Cet empire, sa qualité, c'était d'assurer une certaine sécurité à ses membres et puis aussi une certaine, libre-échange économique, puisqu'il n'y avait pas de taxes, enfin les taxes étaient unifiées, les monnaies, etc. Ce que l'Union européenne a finalement refait quelques siècles plus tard. Donc il y avait des avantages économiques et de sécurité. Mais le problème, c'était sa gouvernance. Il n'y avait pas de structure forte. Il était un peu démocratique, dans le sens où l'empereur était élu par les princes, donc ce n'était pas une autocratie pure, mais ces structures de pilotage, au fond, étaient complètement insuffisantes pour affronter les défis, les invasions, etc., les problèmes de l'époque. Et c'est pour ça qu'il s'est délité petit à petit. Mais il a quand même réussi, grâce à cette structure équilibrée, un peu démocratique, en assurant des prestations de sécurité, etc., il a quand même duré très longtemps. Autre tentative, celle de Napoléon, qui a échoué, comme celle de Charlemagne. Ça a duré une douzaine d'années, puis ça a échoué.
Là, tu dis quelque chose de très intéressant, c'est que toutes les tentatives par la force ont toutes échoué.
Ben, les deux dernières qu'on connaît par la force, c'est celle de Hitler, avec sa Neuordnung Europa, son nouvel ordre européen, qui était aussi une tentative d'unification européenne, et celle de Staline, par le biais du communisme, qui voulait lui aussi créer une Europe communiste et qui a, en tout cas, réussi à le faire avec l'Union soviétique, a pu le faire entre 1945 et 1991, pendant une cinquantaine d'années. Donc, ces tentatives par la violence, effectivement, échouaient parce qu'au fond, elles ne correspondaient pas à l'ADN européen. Europe qui a quand même un peu instauré et puis imposé les idées de liberté, d'égalité, etc., étant la tentative de Hitler, pour prendre les plus récentes que celle de Staline, s'oppose à la fois à la liberté, naturellement, mais aussi à ce besoin ressenti d'égalité, puisqu'on excluait soit des races, soit des classes sociales. Donc les tentatives par la violence ont toutes échoué. Les tentatives, plus basées sur un plus grand consensus, comme celle du Saint-Empire romain germanique et comme le dernier exemple que je cite, celui de l'Empire austro-hongrois, qui regroupait une quinzaine de nationalités, les Slovènes, les Slovaques, les Tchèques, naturellement les Autrichiens, donc monde germanique, les Italiens, avec la Vénétie notamment, des Polonais, donc vraiment des Croates, des Hongrois, évidemment, tout un ensemble de nationalités, au fond, était aussi une construction supranationale qui a, elle aussi, connu un certain succès parce qu'elle n'était pas basée que sur la violence. Elle était basée aussi sur une certaine participation de ces peuples à l'exercice du pouvoir. Il a échoué, finalement, à cause de la Première Guerre mondiale. Et là aussi, pour une en raison d'une gouvernance insuffisante, c'est-à-dire d'un excès de monarchie, à un moment où il aurait fallu donner davantage de droits participatifs au peuple qui composait cet empire.
Tu parles beaucoup du déclenchement de guerres qui sont dues à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des fake news. Moi, ça m'a beaucoup frappé dans ton livre. À plusieurs reprises, tu donnes cet exemple, parce qu'au fond, Sarajevo, ça a été très monté en épingle. On n'était pas obligé de mettre l'Europe à feu et à sang parce qu'on tuait un archiduc autrichien.
Effectivement. C'est vrai qu'un des reproches que je fais cette fois à l'Europe contemporaine, qui assez justement prétend qu'elle est une Europe de paix, puisqu'elle a au fond rétabli le dialogue entre la France et l'Allemagne, qui s'opposaient, qui ont créé beaucoup de guerres, qui ont ravagé le continent, n'est pas tout à fait une Europe de paix comme elle prétend l'être. Si elle a réussi à assurer ce dialogue franco-allemand, elle a aussi fait la guerre à l'extérieur, elle a fait la guerre en Yougoslavie. La Yougoslavie était une construction fédérale, reconnue par les Nations Unies. Donc en tant que système fédéral, elle aurait au contraire dû être reconnue par l'Europe. Or, l'Europe, du fait de la précipitation allemande à reconnaître les volontés sécessionnistes des Slovènes, des Croates et des autres républiques par rapport aux Serbes, a précipité l'éclatement de la Yougoslavie et, au fond, la guerre civile en Yougoslavie. Et ça, l'Allemagne a été très, disons, à une grande responsabilité. C'est aussi une fake news, pour revenir à la question, c'est-à-dire qui a déclenché les hostilités de l'OTAN en 1999 contre la Serbie, parce que l'état-major allemand avait construit, soi-disant, un plan fer à cheval, élaboré de toutes pièces, qui accusait la Serbie de vouloir éradiquer, épurer les musulmans et les kosovars de Serbie. Un plan qui a été complètement fabriqué, complètement faux, et construit uniquement pour légitimer le bombardement de l'OTAN contre la Serbie. Donc là, c'est grave, à mon avis gravissime, qu'un État européen fabrique un fake plan militaire de toutes pièces pour accuser une partie, pour bombarder après via l'OTAN et les avions américains.
Guy, à l'extérieur de l'Europe, tu cites même quelque chose qui est absolument terrifiant concernant Saddam Hussein, et tu dis que c'est une agence de RP américaine qui a monté le plan qui a déclenché cette guerre.
Oui,
cette éviction du pouvoir.
Oui, alors là aussi, ça s'est passé la guerre d'Irak, à laquelle beaucoup d'Européens ont participé. Alors, la France n'a pas participé à l'épisode de 2003, mais à celui de 1991, toute l'Europe a participé. Et celui de 1991, c'était aussi un montage complet, fait l'affaire des pouponnières de Saddam Hussein au Koweït. C'est un montage total, monté par une agence de relations publiques américaine pour justifier, au fond, la première guerre d'Irak. Et la deuxième guerre d'Irak, c'est la fameuse invention des armes de destruction massive par Colin Powell à la tribune de l'ONU, soi-disant, selon cette thèse, Saddam Hussein aurait détenu des armes de destruction massive qui justifiaient la deuxième guerre d'Irak et l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, et dont on a pu avoir la preuve qu'elles étaient complètement fabriquées.
Ça fait peur,
donc,
ces fake news. Hein.
On provoque des guerres auxquelles l'Europe s'associe sur des bases complètement inventées. Et ça pose un gros problème.
On va écouter Leonard Cohen pour se remettre de tout ça.
Absolument.
Radio, Cité, Genève.
Oh, crown of light. Oh, darkened one. I never thought we'd meet. You kiss my lips, and then you're gone, and I'm back on Boogie Street.
still recall the pleasures that we knew, the rivers and the waterfall, wherein I bathed with you, bewildered by your beauty there.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Guy Métan. Nous parlons de son livre Le continent perdu. C'est l'Europe, ce continent perdu. Et on va le voir. Il est même possible qu'il y ait un risque de disparition comme la Grèce, nous racontes-tu dans ce livre.
Oui, ben j'essaie de faire une analogie entre l'histoire de la Grèce ancienne et puis celle de l'Europe contemporaine. La Grèce ancienne est un sommet de civilisation, chacun le sait, au temps de Périclès. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Grèce s'est autodétruite dans une guerre civile entre Athènes et Rome qui a duré 30 ans. Cette guerre civile grecque a rassemblé toutes les forces grecques, pas seulement Athènes et Sparte, je veux dire. Mais vraiment toute la Grèce et même au-delà, toutes les puissances au fond méditerranéennes de l'époque. Donc c'est une guerre mondiale au niveau de l'époque qui a duré 30 ans, entre 404 et 28 ans. Et l'Europe a connu exactement la même chose avec la Première et Deuxième Guerre mondiale. C'est une guerre civile européenne. C'est une guerre civile, surtout entre la France, l'Angleterre d'un côté, puis l'Allemagne de l'autre, grosso modo. Mais c'était une guerre civile qui a duré aussi 30 ans, 1914 et 1945. Et au fond, la civilisation grecque s'est autodétruite. Elle s'est cassée à l'issue de cette guerre. Le ressort de la civilisation s'est cassé, exactement comme le ressort de la civilisation européenne s'est cassé. Et pour tenter de renouer un peu les fils de la civilisation, les Grecs ont essayé d'instaurer des ligues, c'est-à-dire des confédérations. C'est-à-dire, il faut arrêter de nous taper dessus, il faut arrêter de nous diviser, il faut qu'on se remette ensemble pour renouer avec ce qu'on a été. Il y a aussi, pas seulement du point de vue politique, mais aussi du point de vue civilisationnel.
Et ça n'a jamais suffi.
Et ça n'a jamais réussi. Pourquoi ? Parce que chaque fois, ils étaient divisés. Chaque fois, il y a une partie des Grecs qui était exclue et qui faisait appel à d'autres gens de l'extérieur, exactement comme les Européens. Maintenant, on exclut tous les Russes et le monde slave, on exclut les Serbes, qui se font partie pourtant intégrante de la civilisation européenne. Et puis en même temps, on appelle à l'aide des forces extérieures comme les États-Unis. On les a appelés en 1917, on les a appelés en 1941. après, pendant la guerre froide, exactement comme les Grecs de l'époque.
Et tu parles aussi de toutes les forces colonialistes.
Exactement. Ont appelé les Romains à la rescousse. Romains qui ont fini par ne plus jamais partir de Grèce et par conquérir totalement la Grèce et la réduire à l'état de colonie. Et c'est un peu ce qui arrive à l'Europe actuelle, où sa civilisation n'est plus capable de rebondir, où les divisions internes entre les pays de l'Est, les pays du Sud, etc. On voit aussi avec le Brexit, au fond, les divisions s'accentuent et on n'arrive plus à y faire face. Et ce que je crains, c'est que l'Europe finisse un peu comme la Grèce, avec un passé prestigieux, mais au fond avec un avenir très bouché. Et c'est pour la raison, au fond, profonde pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, parce qu'après, j'analyse tout, au fond, les défauts de l'actuelle Union européenne, c'est-à-dire son absence de souveraineté, puisqu'elle est totalement dépendante militairement des États-Unis à travers l'OTAN. Donc, elle n'est pas capable d'avoir une politique indépendante. Si on dépend militairement d'une autre puissance, on n'a pas d'indépendance. Il faut la retrouver.
Ça, c'était la vision gaulliste.
Exactement. De Gaulle avait vu tout ça, parce que lui connaissait l'histoire, donc avait très bien analysé tout ça. C'était pas juste pour mettre en avant la France, c'était une vision historique profonde, quand on lit ses œuvres. Donc absence de souveraineté, puis d'autre part, exclusion des peuples. C'est-à-dire, au fond, c'est une fabrique de dogmes, une fabrique de normes, cette Union européenne, une fabrique, au fond, aussi de dogmes néolibéraux, axé uniquement sur l'économique, mais qui exclut le politique, qui exclut les peuples. Et ces peuples, maintenant, eh bien, se vengent, entre guillemets, à travers les mouvements populistes, c'est-à-dire eurosceptiques, c'est-à-dire, au fond, opposés à l'idée d'une Europe supranationale. Et ça, c'est le problème. La solution existe, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est le problème majeur. Et si on n'y arrive, on n'arrive pas à dépasser ces contradictions-là, on finira comme la Grèce antique, c'est-à-dire on disparaîtra non pas de la carte du monde, on continuera à exister, mais en tout cas comme civilisation, on disparaîtra comme civilisation et on sera totalement absorbé par la civilisation américaine, ou peut-être russe ou turque, je ne sais pas, mais en tout cas plus européenne.
Alors le Brexit, est-ce que c'est pas aussi à mettre au rang des fake news ou tout au moins de la manipulation à un haut niveau ?
Oui, mais moi je pense que les manipulations là vont des deux côtés. Je pense que les peuples ne votent pas contre leur intérêt, au fond. Alors on peut être d'accord ou pas avec leurs décisions, suivant dans quel camp on se trouve, mais je pense que les peuples ne votent pas contre leurs intérêts. Et si on était, je pense qu'il faut respecter la décision démocratique britannique, quitte à y revenir dans 10 ou 15 ans. On a encore toute l'histoire, j'espère qu'on a de l'avenir. Comme on a fait en Suisse, quand on a construit le modèle suisse, il y a aussi eu des régressions, mais on les a, avec le temps, on les a dépassées. Donc, voilà. Et je pense aussi...
Et en France, qu'est-ce qui va se passer ?
Voilà. Et je pense aussi que le Brexit devrait être un signal pour les autres Européens, pour le reste de l'Europe, en disant, il y en a eu un, mais il n'en faudrait peut-être pas deux. Donc, il serait temps de réformer cette gouvernance européenne, justement pour y associer les peuples. Parce que si les peuples jouent le jeu, et si on leur donne un peu on leur redistribue un peu de richesse, de force d'emploi, au fond, et de pouvoir de décision, puisque maintenant ils sont complètement exclus de la gestion de l'Europe au niveau supranational, au niveau européen, puisque c'est complètement technocratique, et qu'à part le Parlement européen, mais qui n'a pas de pouvoir de Parlement, puisque les parlementaires n'ont pas le droit d'initiative de faire des lois, donc c'est un Parlement nabo. Eh bien, si on restituait une vraie démocratie au niveau européen, non seulement au niveau des États-nations qu'ils composent, là, on pourrait remettre les peuples dans la course et faire redémarrer le projet européen.
Parce qu'en France, une partie de la population pense que l'Europe est simplement une production de normes qui sont horriblement contraignantes et destructives.
La Constitution européenne fait 200 pages, la Constitution des États-Unis en fait une vingtaine. Donc on a tout dit quand on a dit ça. La Constitution américaine est si bonne, elle a fait ses preuves maintenant depuis bientôt 250 ans. sans problème. Elle a survécu à tous les Trump, les Jackson, tous les populistes, toutes sortes, toutes les crises, sans problème. La Constitution européenne, en 200 pages, personne n'est capable de dire exactement ce qu'est
le droit.
Le droit européen, c'est plusieurs tonnes de documents, c'est des millions de pages. Il n'y a plus personne qui s'y retrouve, à part quelques experts. Mais ça ne peut pas être possible de gérer une structure comme ça, avec un empilement de normes et de lois si complexes.
On va écouter Mozart, La Flûte Enchantée.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Guy Mettant. Guy Mettant qui, au long de cette émission, nous a parlé de son livre Le Continent Perdu. Le Continent Perdu, c'est l'Europe. Alors on a dit, Guy, tu as dit tout ce que l'Europe ne doit pas être, tout ce qu'elle est et ne devrait pas être. Que devrait-elle être ?
Alors pour moi, l'Europe devrait oser le saut fédéral, c'est-à-dire oser construire un vrai État fédéral, à la manière suisse ou à la manière américaine. Les États-Unis sont une fédération qui marche depuis bientôt 250 ans, et la Suisse, la même chose depuis deux siècles, depuis 1815 grosso modo, ou 1848 si on prend la deuxième, la deuxième création fédérale. Donc de, et on, pourquoi parce que, au fond, sans structure fédérale, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce que maintenant, qu'est-ce qu'on voit en Europe ? On voit un empilement d'instruments de gouvernance divers. On a, sur le plan militaire, l'OTAN, qui a un parlement, etc., qui est censé régler le problème militaire. On a l'Union européenne qui est censée...
Inquiétant avec M. Trump, d'ailleurs, qui...
Je ne vous le fais pas dire.
qui est moins engagé, on va dire comme ça.
Qui a l'air d'être un va-t-en-guerre aussi, oui. assez... Voilà, oui. très, effectivement, très, très inquiétant. On a le plan économique avec l'Union européenne et le néolibéralisme, avec aussi sa dérive néolibérale, donc un excès au fond d'économie. On a le Conseil de l'Europe qui règle les questions liées aux droits humains, aux droits de l'homme, etc. On a l'OSCE qui a aussi...
Tout un empilement juridique, de
structures diverses qui se marchent dessus, qui sont redondantes, mais qui en même temps n'assurent pas, sont incapables d'assurer...
C'est pas lisible.
Par personne, et qui n'assurent pas au continent une gouvernance appropriée, où il n'y a pas de souveraineté, donc pas d'indépendance. Bref, toute une série de problèmes dus à cette construction, j'appelle ça une machine à tinglis, personne ne sait exactement... comment ça marche, on s'occupe de toutes sortes de choses, tout est mélangé, tout est confus. Donc, le système fédéral serait le propre à mettre de l'ordre. Mais le problème, c'est que ce système fédéral, personne n'en veut. Les Français n'en veulent pas parce que...
Abandon de souveraineté.
Non, et puis les Français ne comprennent rien au système fédéral. Ils ont toujours vécu dans un système centralisé, jacobin, soit la monarchie dans l'Ancien Régime, soit une république de style jacobine, centraliste.
De style monarchique.
Et de style monarchique. Donc au fond, les Français n'ont jamais beaucoup, rien compris. D'ailleurs, on le voit dans la difficulté que la France a à gérer ses régions. Tous les 5 ans, on change de système régional, on détruit les départements. Enfin, donc, au fond, la France n'a jamais tout à fait bien réussi dans ce domaine. Parce qu'elle ne comprend pas l'essence même du fédéralisme. Essence qui consiste à défendre les États membres. La droite, par exemple, Marine Le Pen, ne veut pas de l'Europe, mais elle n'a pas compris...
Ça, c'est l'extrême droite. Hein, c'est
l'extrême droite. Oui, l'extrême droite. Mais elle n'a pas compris que la meilleure garantie, la meilleure assurance de développement des États, mais c'était le système fédéral. Mais enfin, on y reviendra. Et l'autre problème, c'est que l'Allemagne, elle, a au contraire trop bien compris ce qu'était le fédéralisme. Elle l'a un peu expérimenté avec le Saint-Empire romain germanique dont on a parlé. Elle le pratique maintenant, puisque l'Allemagne est un État fédéral. Elle comprend très bien ça. Mais comme l'Allemagne a pris une importance démesurée en Europe, elle a tellement étendu son pouvoir, elle n'a plus l'envie de le partager avec d'autres. Parce que dans un système fédéral, les États forts, par exemple en Suisse, le canton de Zurich ou de Berne, qui sont des États très puissants, eh bien, doivent partager le pouvoir avec les États les plus faibles, ou Schwitz, ou en Europe, le Luxembourg, l'Estonie, la Croatie, etc. Donc, ils sont mis à peu près sur le même plan. C'est ça, un système fédéral. C'est l'égalité des États, donc protection pour eux, capacité de conserver leur culture, leur langue, leur tradition, etc. Et donc, au fond, personne n'en veut, ni la France, ni l'Allemagne, ni les européistes, parce que les européistes sont des libéraux, des ultralibéraux qui ne veulent pas d'État. Donc un État européen, ça contrecarrerait, au fond, l'hégémonie de l'économique. Parce qu'évidemment, ça, un État régulerait, au fond, un peu l'économique. Et là,
mais au
ils
fond,
n'en veulent
qui
pas.
Est pour cette pauvre
et
Europe,
puis les
finalement
populistes, les populistes n'en veulent pas parce qu'ils craignent de perdre des avantages au niveau national parce qu'ils n'ont pas compris que la meilleure garantie pour eux, ce serait un État fédéral européen. Mais... Donc, au fond, personne n'en veut pour répondre à votre question. Mais
qu'est-ce qui va se passer?
Mais je reste optimiste. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Parce que j'essaye de proposer la méthode suisse. C'est-à-dire où on essaye de retrouver le soutien des peuples en donnant à ces peuples un droit, au fond, en étendant les droits démocratiques. Au fond, c'est d'instaurer le système, le fameux système du RIC, hein, référendum d'initiative citoyenne.
Oh, mais tu vas mettre un gilet jaune dans deux minutes.
Alors, c'est les gilets jaunes qui l'ont repris, mais essayons d'écouter. Il n'y a pas que les gilets jaunes qui demandent ça. À gauche, il y a aussi... Enfin, donc, je veux dire... Et puis, ça existe aussi dans d'autres pays. Donc, il faudrait
on
généraliser...
On n'a pas compris en France ce qu'était ce RIC. Non.
Oui, et puis on n'a pas compris que le droit de référendum et d'initiative, ce n'est pas une fois tous les 50 ans. En Suisse, on le pratique 4 fois par an sur beaucoup d'objets. Parce qu'évidemment, si on l'applique une fois tous les 10 ans, ça devient un plébiscite pour ou contre le président de la République.
Mais c'est ce que ça va être en France, ce RIC.
Mais non, non. Sauf si on le fait à la méthode suisse. Oui. Si on suit la méthode suisse, c'est-à-dire où d'abord, il y a une certaine fréquence. Ensuite, c'est au peuple de proposer des... C'est le peuple qui fait des initiatives en Suisse. Donc, de proposer des sujets ou des projets sur les impôts, sur les transports, etc., qui n'ont rien à voir avec le président de la République. Enfin, en tout cas, pas, ils ne sont pas forcément en opposition. Avec... Donc, c'est ça, le système suisse. Ce n'est pas un plébiscite pour ou contre Macron. Ça, ça l'est quand on l'applique, je dis une fois, trop peu souvent. Mais si ça devient un système, une manière de gouverner, une manière de fonctionner, parallèlement, en tout cas de façon concertée avec la démocratie représentative, c'est-à-dire avec le Parlement, comme ça se fait par exemple en Suisse, ben ça fonctionne très bien.
Oui, alors,
mais
y
évidemment,
a quand même...
c'est pas simple à mettre
non,
en place.
Non, c'est pas simple pour une raison, Guy. C'est pas simple pour une raison, en tout cas en France, c'est que les Français n'ont aucune formation économique. Et mais que, donc, leur vrai. Donner, leur donner, tu demandes demain, tu as demandé, on a demandé aux Suisses s'ils voulaient une 5e semaine de congés payés. Ils ont eu la sagesse de dire non parce qu'ils savaient que ça allait déséquilibrer un certain nombre de choses et probablement de créer du chômage. Tu demandes en France s'ils en veulent une 6e, une 7e, une 8e, s'ils veulent arrêter de travailler. Ils ne demandent que ça.
Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr parce que je pense qu'il faut faire confiance au peuple.
Tu penses?
Je suis convaincu de ça. Alors, on peut poser la question aux Français, peut-être qu'ils s'octroieraient une 5e semaine, je sais pas.
Ils en ont déjà?
Ils en ont déjà.
Mais ouais. Ça serait une 6e.
Moi, je pense qu'avec ou sans notion d'économie, les gens ne sont pas idiots. Ils savent très bien identifier leurs intérêts. Les Suisses sont pas plus intelligents que les Français. Ils sont
ils
pas
ont
plus
une formation économique
plus.
À l'école que n'ont pas les Français.
Moi, je crois pas. Personnellement, je ne partage pas ce point de vue.
Ah, mais tant
je
mieux, moi,
si
j'aime t'entendre, parce que ça donne
la responsabilité aux gens, les gens prennent cette responsabilité.
D'accord.
Et si on leur... dans tous les domaines, pas seulement l'économie, mais l'école, la formation, si on leur dit investissez, par exemple, dans le système scolaire, ils sont capables de comprendre que c'est aussi dans leur propre intérêt, de leurs enfants, etc. Donc, toutes ces questions-là, ils savent très bien que si on arrête de travailler, il n'y aura plus de revenus. Les gens ne sont pas idiots. Et ils sont d'accord de travailler, à mon avis, mais pour autant qu'une partie du fruit de leur travail leur soit rendue et non pas captée non plus par une micro-élite qui ramasse tout pour elle. Donc, il faut aussi, ils doivent voir les fruits de leur travail redistribués.
C'est juste, c'est très juste.
Sous forme d'université, de culture, de routes qui fonctionnent, de chemins de fer qui fonctionnent, etc.
Tu as raison.
Et en Suisse, c'est ce qui se passe. De temps en temps, il y a des dérapages, ça arrive partout, en Suisse aussi, mais on corrige. Et sur la distance, on voit que ça marche. Parce que les gens, ils savent très bien que si on ne travaille pas, ben, il n'y a pas de salaire. Donc, ils sont très économiques, au contraire.
Alors, au total, de l'espoir, quand même. J'aime t'entendre.
Oui,
j'aime t'entendre,
oui, oui.
Même
moi,
pour
je,
la France.
Absolument,
même...
non, mais surtout pour la France. Surtout pour la France. Donc, moi, mais effectivement, il faut une fois essayer. Et quand les gens voient les avantages du système... Un, ils n'ont pas l'envie forcément, ils n'auront pas forcément l'envie de, je m'excuse de l'expression, d'aiguiller leur président, donc de dire dégage, parce qu'eux-mêmes assument au fond les responsabilités qu'ils ont eux-mêmes prises. Donc, si on arrivait à le faire, je pense qu'on remettrait à la fois la France, mais aussi l'Europe sur de bons rails.
C'est ce qu'on va espérer, Guy, au terme de cette émission.
Merci en tout cas pour... cet accueil et cet échange.
Merci beaucoup d'être venu nous parler du continent perdu, plaidoyer pour une Europe démocratique et souveraine. Et puis, tu as ce petit bandeau. Et si l'Europe s'inspirait du modèle suisse, ça serait certainement une bonne idée. On va terminer là-dessus.
Parfait, merci.
Merci beaucoup, Guy. Merci aussi, Olivier Steinmetz, qui nous a enregistrés. Et puis, à bientôt pour une autre bouteille à moitié pleine. Et Guy, merci encore une fois. Je suis sûr qu'il y aura d'autres livres, que le 10e ne sera pas le dernier, te connaissant.
Voilà, j'espère, oui, tout à fait.
Alors, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Radio Cité Genève. Viviane De Witte.
La bouteille à moitié pleine.